D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs et organisatrices de ces journées d'études de me donner l'occasion de parler de mes recherches aujourd'hui. Donc effectivement, comme déjà indiqué, aujourd'hui je vais vous parler des représentations des femmes vieillissantes dans les littératures contemporaines françaises et germanophones. Et s'il y a bien d'abord un fait indéniable autour de la vieillesse, c'est qu'elle est un des marqueurs fondamentaux de l'impermanence, puisqu'en fait les corps changent, de même que les capacités physiques. Notre pensée aussi évolue sous l'influence des multiples expériences acquises tout au long de la vie. Et en cela, la vieillesse s'écarte de cette manière très éloignée de la réalité, mais en même temps très réconfortante, de considérer que l'identité est une entité fixe et que le temps ne peut altérer. Et on pense notamment à cette fameuse phrase prononcée de manière si souvent péjorative, tu as bien changé. Même si l'idée de performance et de prolifération des genres, telle qu'elle s'exprime dans le célèbre Trouble dans le genre de Judith Butler, est aujourd'hui une référence dans les études de genre et les études queer, elle est loin d'être parfaitement admise dans les sociétés, dans nos sociétés occidentales. Et en fait, il suffit de se pencher sur les violences que subissent encore, par exemple, les personnes trans. En fait, nos sociétés sont encore très attachées à l'idée de fixité dans la norme. Et en fait, cette fixité montre un système que moi je qualifie de hétéronormaliste, selon en fait le chercheur allemand Jürgen Link, qui lui va définir le normalisme comme étant la somme de la normativité et de la normalité. Donc pour lui, la normativité, c'est l'ensemble des instruments étatiques et juridiques qui permet de réduire ou d'agrandir la zone du normalisme. Et la normalité, elle, se situe plutôt à un niveau de perception individuelle, je cite, une catégorie essentiellement graduelle, déterminée en fait par l'individu lui-même. Donc cet ordre hétéronormaliste admet une norme de genre en fait binaire et duelle, et différents rôles socioculturels par lesquels il faut passer pour être intelligible dans un genre ou l'autre. Dans le cas des femmes, par exemple, il s'agit d'abord d'être visible en tant qu'individu hétérosexuel la plupart du temps, puis en tant que compagne ou épouse, et enfin en tant que mère. Et pour autant, la vie des femmes ne s'arrête pas là. Les femmes changent, les femmes vieillissent, mais cette étape manque de représentation. Même dans la littérature contemporaine, qui, comme je le montre dans ma thèse, en fait, oscille entre les illustrations de cet hétéronormalisme et les représentations des genres comme lieu de tous les possibles, la vieillesse occupe bien souvent une place secondaire. Alors on peut expliquer cela par le fait que on considère généralement l'âge comme une réalité biologique qui concerne l'ensemble des êtres vivants et des êtres humains. L'âge, en fait, malgré son lien évident au changement, semble s'opposer à des paramètres comme le genre, la race ou la classe, qui sont des objets de réflexion et de réflexivité continue et qui sont considérés aujourd'hui comme des constructions sociales. Pourtant, la recherche gérontologique actuelle s'accorde désormais à considérer l'âge aussi comme une de ces constructions sociales. Et Juliette Rennes, par exemple, va faire la distinction entre l'âge calendaire, c'est-à-dire le nombre d'années, et l'âge social d'une personne qui, je cite, renvoie à la façon dont ses activités, son statut social et son apparence corporelle positionnent cette personne aux yeux des autres et à ses propres yeux dans une tranche d'âge dont la perception peut varier selon les situations. Inspiré aussi par la théorie queer de la performance des genres, le chercheur allemand Klaus Ehrschröter évoque même le doing age, qu'il résume comme suit, je cite, nous ne sommes pas seulement vieilles et vieux selon la manière dont nous nous sentons, mais aussi vieilles et vieux selon la manière dont nous nous représentons et dont nous agissons. Donc, partant de ces constats, la question qui va m'occuper aujourd'hui est la suivante. Quelle performance, potentiellement au pluriel, de la vieillesse, les littératures contemporaines françaises et allemandes donnent-elles à voir? Et pour tenter de répondre à cette question, je vais mobiliser aujourd'hui deux exemples littéraires. Donc, le roman Gier, ein Unterhaltungsroman, qui est paru en 2000 et qui a été écrit par l'écrivaine autrichienne nobelisée Elfriede Jelinek, et la trilogie Vernon Subutex de l'auteure française Virginie Despentes, qui est paru entre 2015 et 2017. Et ces deux textes, en fait, ont pour point commun de mettre en scène justement des protagonistes vieillissantes. Et pour aujourd'hui, je vais postuler que les deux textes proposent une performance hétéronormaliste de la vieillesse féminine qui à la fois va renforcer les stéréotypes de genre et en même temps exclure les protagonistes en dehors du genre féminin. Ce qui fait qu'on assiste à une oscillation des figures littéraires entre femmes d'un côté et vieillissantes de l'autre. Mais alors que dans Guilla, la narration va épouser cyniquement le male gaze, que je définirai plus tard, dans le but de participer à un projet littéraire plus global, Vernon Subutex va nous proposer une alternative à la performance hétéronormaliste de la vieillesse féminine sous la forme de concepts comme l'anocriticism ou l'embracing shame, qui visent tous deux à la réappropriation de l'âge social. Donc la performance hétéronormaliste de la vieillesse, d'abord, est une question de ce que la chercheuse américaine Susan Sontag va appeler le double standard de l'âge, et qui, pour résumer, fait que la vieillesse n'est pas vécue ni perçue de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Guir, Ein Unterhaltungsroman, va présenter l'histoire du gendarme Kurt Janusz, qui va manipuler et abuser les femmes vieillissantes seules et aisées, dans le but en fait d'hériter de leur fortune et de leurs biens immobiliers, notamment en leur proposant une vie amoureuse et sexuelle épanouie. Les chercheurs Olaf Grabinski, Bernd Kühne et Jörg Schönert vont souligner la polyphonie narrative très importante qui est à l'œuvre dans le roman, et qui est notamment soutenue par une narratrice qui met justement en exergue ce double standard. Et je viens de capter que je n'ai pas mis mon PowerPoint. Donc je vais vous le partager puisque les extraits sont dedans. Alors attendez. Hop. Ici. Pas du tout. Hop. Voilà. Donc je vais partager. Je peux partager mon écran? Alors, où es-tu? Ah, il ne s'est pas lancé pour le moment. Alors. Ah, voilà, il est là. Voilà. Vous voyez? Oui, super. Hop. Alors, par contre, je crois que je ne peux pas le mettre en grand écran. Ah, si, peut-être. Oui, si, voilà. Donc, par exemple, pour l'idée donc du double standard, par exemple, à propos de Kurt Janusz, vous pouvez lire l'extrait numéro 1 qui est ici. Donc, en fait, parallèlement à cette description de Kurt Janusz, l'instance narrative va exercer une critique vraiment acerbe du corps de la femme, du gendarme, dont on ne connaît d'ailleurs même pas le nom, et qui, en fait, vit avec le fils du gendarme et sa belle-fille, dont, en fait, ils ont hérité de la maison en viager. Donc, déjà, une expérience de l'arnaque de Kurt Janusz qui a réussi ici. Donc, en effet, c'est la belle-fille du gendarme qui va s'occuper de cette vieille femme et qui va même en fait la maltraiter, confiant laisser la vieille femme, je cite, coucher dans sa crotte jusqu'au soir, quitte à y moisir. Donc, c'est une description d'une extrême obscénité qui est centrée en fait sur les aspects péjoratifs du déclin corporel. Alors évidemment, les phénomènes comme l'incontinence ne sont pas l'apanage des corps féminins vieillissants, mais dans les faits, dans le roman, les mécanismes de domination qui sont à l'œuvre permettent justement cette représentation en double standard, puisque dans les faits, Janusz ne va manipuler exclusivement que des femmes. Donc par conséquent, seuls les personnages féminins font l'objet d'un tel mépris, dans le sens où seules les spécificités de la vieillesse féminine sont soulignées. Et à ce sujet, Cécile Chamaillou-Coun identifie chez Jelinek la différence sexuelle, je cite, dans la spatialisation de l'anatomie intime. Au corps contenant, intérieur et morcelé de la femme s'oppose le corps masculin. Celui-ci prend la forme d'un corps contenu, extérieur et entier. Donc on le voit ici dans l'extrait numéro 1, Kurt Janusz est jugé de manière générale dans la fleur de l'âge social d'ailleurs, puisqu'il a quand même un petit-fils qui trahit son âge calendaire. Alors qu'à l'inverse, le corps des femmes, lui, va être présenté de manière plus fragmentée. En fait, outre la vieille femme du gendarme, il y a une autre protagoniste importante pour le récit, qui s'appelle Gertie, et qui est une ancienne secrétaire polyglotte, traductrice et pianiste à ses heures perdues, âgée d'une cinquantaine d'années. Et c'est sur cette protagoniste que va se centrer l'essentiel des fragmentations corporelles, qui vont essentiellement concerner sa poitrine. Dans l'une des scènes de sexe pardon, les plus violentes du roman, Gertie va retrouver Kurt dans la forêt et se déshabiller presque immédiatement en soulevant son soutien-gorge. Et on peut lire l'extrait ici, numéro 2. Ce passage va suggérer en fait une parodie cynique d'hétérosexualisation qui illustre parfaitement ce mouvement à la fois de renforcement des stéréotypes de genre et en même temps d'exclusion en dehors des normes. Puisque d'un côté, le dévoilement des seins va ancrer le caractère éminemment érotique de la scène, mais de l'autre, la description va mettre l'accent sur la lourdeur, sur la déformation des seins qui pendent et qui en cela ne correspondent plus à la norme de jeunesse telle qu'elle est prônée par l'hétéronormalisme. Gertie, par la suite, va elle-même qualifier ses seins de ballochards, de ballots de poussière, et les originaux allemands, qui sont en fait Spaßsäcke et Staubbeutel, donc littéralement sacs de plaisir et sachets de poussière, vont amplifier cette objectification de la poitrine de la protagoniste. Et plus loin, d'ailleurs, dans l'extrait numéro 3, on va retrouver ces allusions au sac, cette fois de la part du gendarme de Kurt. Donc en fait, d'après presque toutes les voies narratives du roman, la poitrine de Gertie est le symbole de sa vieillesse, de son exclusion de la fertilité et donc de la sexualité. Dans Vernon Subutex, les seins vont également participer à la prise en compte de la vieillesse féminine et on le voit par exemple dans l'extrait numéro 4 qui concerne la protagoniste Sylvie. Donc, encore une fois, la perception de la vieillesse féminine repose sur un unique élément, c'est-à-dire la poitrine, qui est ici d'autant plus objectifiée qu'elle entre en interaction avec un autre objet pour tester sa validité, ici le stylo, enfin, le crayon. Le passage vient en fait confirmer les réflexions de Heike Hartung, selon lesquelles, je cite, le processus de vieillissement concerne le corps, le rend à la fois parfaitement tangible et invisible culturellement. Donc en fait, c'est quand Sylvie va avoir la sensation d'un changement anatomique qu'elle va de nouveau se regarder nue, mais c'est aussi à partir de ce moment-là qu'elle va craindre la disparition culturelle de son corps et une mort symbolique, incarnée ici par la flèche en plein cœur. Les deux exemples ici proposent donc une vision hétéronormaliste de l'âge qui repose essentiellement sur un double standard auquel participe une vision fragmentée et objectifiée des corps. Et ces éléments marquent en fait la présence du male gaze dans les deux textes. Mais alors qu'on va voir que dans Gear, le roman pousse le male gaze à l'excès pour servir un projet littéraire de dénonciation des stéréotypes de genre, Vernon Subutex va offrir une alternative à cette vision hétéronormaliste de la vieillesse féminine par la réappropriation de l'âge social. Donc, comme je le disais, tous ces éléments convergent vers la présence du male gaze. Donc, male gaze, en français, la vision ou le point de vue masculin a été théorisé pour la première fois par la critique réalisatrice et universitaire féministe Laura Mulvey en 1975. Donc, le male gaze, c'est d'abord une conception cinématographique qui sert à présenter l'idée selon laquelle une figure masculine centrale et identificatoire porte le regard de toute puissance des spectatrices et aussi de l'équipe réalisatrice sur un personnage féminin subordonné. Donc, par la suite, la notion va être étendue hors de son champ premier d'application, mais aussi dans sa définition, puisque le male gaze n'est pas seulement une manière de percevoir, mais aussi une manière de construire et de renforcer des images. Ainsi, Aurélie Olivesi indique que, je cite, le concept implique une schématisation fantasmagorique de la figure féminine, sa sexualisation, mais en même temps sa silenciation, et partant l'invisibilisation de ce qui pourrait être un regard ou une vision féminine. Et ça, on l'a déjà constaté directement dans les exemples précédents, puisque dans Gear, le point de vue de Gertie sur sa poitrine est complètement effacé et rejoint en fait le point de vue du personnage masculin central, mais aussi de l'instance narrative partielle du male gaze. Et dans Vernon Subutex, le premier regard que Sylvie porte sur sa nudité signifie d'abord sa désillusion. Mais en fait, une désillusion non pas par rapport à la beauté comme valeur subjective, mais plutôt par rapport à la beauté comme étant dictée par l'hétéronormalisme. Et en fait, on retrouve cette idée notamment dans le lien qu'elle établit entre cette beauté et son idylle avec le personnage principal de la trilogie, Vernon Subutex, dont le désir l'a réconciliée avec son image. Je cite. Et plus loin, on peut également lire l'extrait numéro 5, dans lequel ici, tout son corps est perçu comme fragmenté, avec un focus précis sur les points de sexualisation que sont la poitrine, le ventre et les fessiers. Sylvie, en fait, ne s'observe pas ici avec son regard à elle, mais avec le regard hétéronormaliste d'objectification, voire même, dans ce cas précis, d'animalisation. Et c'est justement ce qui lui fait dire à propos de Max, un ancien amant, ce que vous pouvez lire dans l'extrait numéro 6. Selon Olivesi, c'est aussi ce que révèle le male gaze, qui, je cite, permet de décrire avec efficacité la relation existant entre le regard, le pouvoir et le savoir, ainsi que la structure hégémonique du regard qui objectifie la personne regardée, et partant le système de pouvoir entre celui ou celle qui regarde et celui ou celle qui est regardée. Et c'est précisément dans l'hétérosexualité que ce rapport hégémonique du regard s'observe le mieux. Rapport hégémonique qu'on retrouve d'entrée de jeu dans le roman de Jelinek, tel que l'indique l'extrait numéro 7. Donc, le passage ici met en exergue la position de la narratrice, qui se place en fait plutôt du côté de Geertie et des femmes vieillissantes, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Surtout ici, on trouve l'affirmation d'une dépendance des figures féminines à l'égard des personnages masculins, du point de vue de la sexualité et en lien avec la vieillesse. Ainsi, à plusieurs reprises, le texte va faire mention de la sécheresse du sexe de Geertie, comparé à un objet qu'on doit huiler, comme dans l'extrait numéro 8. Geertie ici se trouve dépossédée de l'usage de son sexe et donc de sa sexualité, au nom d'un prétendu manque d'attractivité et d'une honte sociale qu'il faudrait ressentir à encore entretenir une sexualité. En fait, seul le personnage semble ici le mieux placé pour savoir comment procéder hétérosexuellement avec les femmes vieillissantes, qui d'ailleurs pour Janusz sont prêtes à tout pour tromper la solitude. Et finalement, même si Geertie va prendre conscience que Kurt est simplement intéressé par sa fortune et par son bien immobilier, elle ne va pas pouvoir passer outre cette dépendance affective et sexuelle. Et attention, spoiler, elle va se suicider en inscrivant Kurt comme seul héritier de son testament. Et cette fin sans espoir pour l'individualité féminine est à relier directement avec l'échec du projet littéraire d'Elfriede Jelinek. Selon Cécile Chamaillou-Coun, Jelinek reconnaît sa propre défaite dans, je cite, l'exploration d'une esthétique à même de dire la sexualité féminine dans l'optique d'une écriture anti-pornographique. Devant l'impossibilité d'habiller les corps de neuf, il ne reste donc plus qu'à les engoncer dans des signifiants identitaires éculés, en réitérant les modalités de matérialisation des corps par le langage et aussi par le biais du male gaze. C'est de là que s'explique en fait cette posture sociale parmi les femmes vieillissantes, qui malgré tout prend quand même narrativement ses distances de la figure de Geertie. L'instance narrative, en fait, bien qu'appartenant au groupe minorisé des femmes vieillissantes, fait donc preuve d'une partialité à l'égard du male gaze, qui dénonce d'autant plus les stéréotypes de la femme vieillissante qu'il les renforce en réalité. Bon, pour autant, le rôle de la femme vieillissante, elle n'efface pas totalement les individualités, et c'est Sylvie de Vernus Vultex qui va nous en donner un exemple dans l'extrait numéro 9. On retrouve ici une trace de l'anocriticism que Robert Mayerhofer définit comme, je cite, une approche interprétative qui comprend l'autorité de l'expérience individuelle féminine du vieillissement comme une résistance, érigeant et généralisant l'expérience de chacune en tant que norme. Même si Sylvie est consciente ici que c'est la norme qui la fait réagir de cette façon, elle va décider de la détourner et de l'utiliser pour faire valoir son expérience singulière. En plus de l'anocriticism, la protagoniste va également illustrer le concept de l'embracing shame, qui est défini par Lynn Sandberg comme étant, je cite, une position théorique qui vise à déployer les sentiments de honte, de négativité et de dégoût liés aux identités et aux vies queer, et dans ce cas aussi principalement liés au grand âge. Donc en fait, Sandberg utilise ce concept pour contraster avec cette injonction à bien vieillir, qui consiste en fait à résister et donc à nier l'âge. Et le concept en fait va transparaître dans le discours de Sylvie, que vous pouvez voir dans l'extrait numéro 10. Sylvie ici fait sienne une technologie qui n'est pas de sa génération, puisqu'elle y voit en fait un moyen de paraître plus jeune, donc de véhiculer une apparence hétéronormaliste qui semble ne pas correspondre à sa véritable identité physique, en fait. Ici, on sent qu'elle, on a l'impression qu'elle se sent contrainte de falsifier son image, et en fait, elle s'exclut consciemment des normes de beauté féminine, ce qui vient aussi confirmer les paroles de Cécile Kieffé, qui souligne la propension des femmes vieillissantes à s'évincer, parfois elles-mêmes, du marché de la séduction hétérosexuelle. Dans le cas de Sylvie, ici, cette conformité, cette conformité aux normes est donc factice, puisqu'elle est garantie par un artifice technologique. D'ailleurs, la jeune inconnue dont il est question et qui les regarde est justement capable d'identifier les deux femmes comme deux vieilles, probablement plus en raison de l'usage du selfie qu'en raison de stigmates de la vieillesse clairement identifiables en tant que telles. En fait, le regard réprobateur souligne ici l'écart entre la réalité et l'identité numérique que Sylvie se crée, autrement dit entre l'âge physique et l'âge performé. Le jugement de la jeune fille est donc la conséquence d'une tentative ratée d'invisibilité, c'est-à-dire pour se fondre dans la masse des femmes, mais qui rend le corps vieillissant d'autant plus visible de l'autre côté. Mais au lieu de ressentir la honte escomptée face à cet écart, Sylvie va décider d'embrasser ce sentiment. En assumant ses actes, elle revendique son appartenance à la catégorie des femmes vieillissantes, mais elle y alimente également au passage un discours clivant entre jeunesse et vieillesse, au même titre d'ailleurs que le regard de l'inconnu dont il est question. Pour conclure, le manque de représentation des femmes vieillissantes souligne déjà en soi que la vieillesse en tant qu'impensée fait précisément partie de l'hétéronormalisme pour cette raison. En effet, la quasi-invisibilité des femmes vieillissantes est d'abord due à une exclusion en dehors des normes de genre et notamment en dehors des normes de beauté féminine. On assiste dans les deux textes à une fragmentation des corps qui appuie la perte de potentiel hétérosexuel. Ce qui fait naître en fait chez les protagonistes une dépendance d'autant plus forte au regard et à l'attention masculine et une envie encore plus intense de se conformer aux normes. Mais parallèlement, les efforts qu'elles vont tout de même fournir pour continuer d'être perçues comme des femmes au sens hétéronormaliste du terme va les déshumaniser. Dans le cas de Gertie, ces efforts vont la ridiculiser aux yeux des personnages masculins et aux yeux de l'instance narrative partiale du male gaze, ce qui fait même qu'elle n'aura même plus de voix à elle. Et chez Sylvie, le morcellement du corps va aller jusqu'à l'animalisation. Mais évidemment, les deux textes ne se contentent pas de présenter une vision hétéronormaliste de la vieillesse. Ils vont la critiquer et la détourner, soit par l'usage hyperbolique du male gaze, soit par le réinvestissement de concepts comme l'anocriticism ou l'embracing shame, qui ne se contentent plus de nier l'âge, mais plutôt de s'en emparer pour tenter de vivre cet âge de façon plus épanouie, quitte cependant à creuser l'écart entre jeunesse et vieillesse. Enfin, pour Lynn Sandberg, je cite, performer un soi sexuel de façon désirable et culturellement intelligible correspond tout à fait au fait de performer un soi d'un âge en particulier. Donc, en fait, la caractéristique principale de la femme vieillissante hétéronormaliste appelle à une performance cohérente du genre en fonction de l'âge et de l'âge en fonction du genre. Et il serait maintenant intéressant d'étudier comment les figures queer, notamment dans Vernon Subutex, viennent justement déstabiliser cette cohérence. Merci de m'avoir écouté.